Maintenant dans le concret de vraiment l'effacement des barrages et avec des premiers retours d'expérience. Donc il y a un premier sur Maison Rouge qui va nous être présenté par Nina. Nina Richard qui est donc co-responsable du CETU Elmis Ingénierie qui est un service d'expertise et de transfert de l'Université de Tours spécialisé dans l'étude du fonctionnement des cours d'eau et des zones humides. Elle mène depuis 1998 des études scientifiques et des travaux de recherche sur le fonctionnement écologique et l'état de la biodiversité des hydrosystèmes. Elle est chef de projet des études visant à évaluer les impacts de l'arasement du barrage de Maison Rouge.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à l'équipe de nous avoir invités à présenter notre travail. Donc, je vais vous présenter effectivement le cas du barrage de Maison Rouge. Donc c'est un travail qu'on a réalisé au sein de l'Université de Tours qui a été financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, les fonds FEDER européens, la DREAL Centre-Val de Loire et la région Centre-Val de Loire. Donc le barrage de Maison Rouge était situé en France, sur la Vienne, donc qui est un affluent de la Loire, dans le département d'Indre-et-Loire, à 48 km de la confluence avec la Loire. C'est en fait le premier obstacle depuis l'océan Atlantique, situé à peu près à 250 km. Donc il est situé à l'aval d'un bassin versant de 20 000 km². Pour indication, la Vienne a un débit moyen d'environ 200 m3 seconde. Ce barrage était situé à la confluence, à l'aval, à 750 mètres en aval de la confluence entre la Vienne et la Creuse. Donc, ce qui fait que son lac de retenue était sur les deux cours d'eau, donc 7 km sur la Vienne et 8 km sur la Creuse. Ce barrage d'une hauteur de 4 mètres au niveau du lit de la rivière s'étendait sur 200 mètres de large. Il a été construit en 1920 pour les besoins en énergie de papeterie. Et ensuite, la concession a été donnée à EDF en 1948 pour l'hydroélectricité. Donc, ce barrage constitue un obstacle majeur à la migration des poissons. Un des problèmes spécifiques à ce barrage, c'était l'hybridation de deux espèces d'alose, l'alose feinte et la grande alose, qui rendaient les individus stériles, malgré la 5 places à poissons qui avaient été édifiées au fur et à mesure. Donc, vous avez ici quelques photographies de l'arasement du barrage. Alors, on parle, nous, d'arasement de barrage parce que c'est un effacement, mais en même temps, il y a un seuil qui a été reconstitué de façon à éviter l'érosion régressive qui avait été estimée dans l'étude d'impact. Donc, la décision a été prise dans le cadre du premier plan Loire Grandeur Nature en 1994, donc en raison du grand nombre d'impacts sur la continuité écologique, du faible intérêt économique et de la vétusté du barrage. Je ne vous cache pas qu'il y a eu une opposition locale qui a été très, très, très forte. Il a fallu 4 années de négociations et d'enquêtes avant que l'arasement soit programmé. Donc, les travaux ont été réalisés entre juin 1998 et avril 1999 avec un abaissement progressif du plan d'eau et la reconstitution d'un seuil immergé pour 2,6 millions d'euros de travaux. Et des mesures compensatoires ont été mises en place pour un montant d'1,5 million d'euros. L'étude d'impact qui avait été réalisée en 1994 avait estimé le volume de sédiments stockés dans la retenue à 900 000 m3, donc essentiellement des sables et des graviers qui ne présentaient pas de contamination grave par les métaux, donc répartis en 600 000 m3 sur la Vienne et 300 000 sur la Creuse. L'objectif des études que nous avons menées depuis l'arasement consistait à comprendre les processus en action, le mode de déplacement des sédiments stockés dans la retenue vers l'aval et la vitesse de déplacement de ces sédiments, et d'évaluer en même temps les impacts de cette nouvelle dynamique sédimentaire sur les habitats, la faune et la flore. Donc nous avons mené 7 campagnes de suivi, une première qui a servi d'état de référence que nous avons réalisé juste avant l'arasement du barrage, et ensuite 6 autres campagnes qui ont été faites régulièrement, donc dès la première année après l'arasement du barrage, en 1999, 2000, 2002, 2005, 2009 et une dernière 2013-2014. Donc vous avez ici 2 photographies, une vue aérienne en fait de l'ancien barrage. Donc on devine le seuil immergé qui persiste. Et vous le voyez ici sur la photo en bas à droite, plus proche. Donc nous avons étudié différents compartiments, donc la dynamique hydrosédimentaire, le compartiment faune mais macrofaune benthique, avec le cas particulier de la grande mulette qui est une espèce en voie d'extinction. Nous avons travaillé aussi sur la flore des berges qui ont été mises à nu, et des atterrissements qui ont été immergés, exondés lors de l'abaissement du plan d'eau, et sur les habitats. Nous n'avons pas, nous, Université Tours, travaillé sur les poissons. Je vous ferai une petite diapo là-dessus à la fin, qui a été suivie en fait par l'ancien Conseil supérieur de la pêche, l'ancien ONEMA et maintenant l'AFB, et par l'association Loire Grand Migrateur. Donc, la retenue de 15 km sur sa globalité Vienne-Creuse ont été étudiées dans le cadre de nos études, et 50 km de la Vienne en aval de l'ancien barrage. Une petite précision sur le tracé en aval de l'ancien barrage, trois grandes zones d'extraction de granulats étaient présentes. Donc, concernant le suivi morphologique, nous avons réalisé des mesures bathymétriques dans l'ancienne retenue et en aval de l'ancien barrage. On a fait aussi un suivi aérien lors de débits équivalents pour suivre l'avancée des sédiments. Un certain nombre de mesures granulométriques et de transport solide. Concernant la végétation, nous avons fait des relevés sur des transects de végétation dans l'ancienne retenue, des relevés en présence-absence ou en abondance-dominance Brown-Blanquette. Concernant le suivi des macro-invertébrés, nous avons deux stations en amont de l'ancien barrage et deux stations en aval. Et nous avons aussi réalisé une cartographie des nouveaux habitats dans l'ancienne retenue. Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats, mais les principaux résultats qui ressortent de nos études. Donc, tout d'abord, concernant l'évolution de la dynamique sédimentaire dans l'ancienne retenue, nous avons eu un ajustement de la pente du lit depuis l'arasement du barrage. Donc, vous avez ici à gauche la Creuse et à droite la Vienne. Donc, c'est beaucoup plus parlant sur la Vienne, avec une pente qui était très forte en 1998 et qui est beaucoup plus faible en 2009. Je vais vous présenter maintenant l'avancée des sédiments au fur et à mesure des différentes campagnes de mesures que nous avons faites. Donc, un an après l'arasement du barrage, on a eu une érosion régressive très importante dans l'ancienne retenue et un dépôt qui s'est fait sur 1,3 km en aval de l'ancien barrage. Donc, quand on prend le cumul des différentes quantités, des volumes sédimentaires, ça nous donne le graphique du bras avec donc une érosion sur l'amont, un dépôt sur l'aval et un transit sur l'aval un peu plus loin. Donc, le suivi aérien que nous avons réalisé nous a permis de bien identifier les barres sédimentaires qui se sont mises en mouvement. Donc, vous avez ici un exemple où on a une barre sédimentaire qui d'une largeur de 100 mètres sur une hauteur de 1,2 mètre. Deux ans après l'arasement du barrage, on a de nouveau une forte érosion régressive, mais cette fois-ci plus en amont dans l'ancienne retenue, et un front de dépôt qui est maintenant à 5,2 km en aval. Donc on voit aussi bien là sur la photo l'avancée des barres sédimentaires. Quatre ans après, on a toujours un dépôt en aval de l'ancien barrage, donc j'ai juste oublié de vous dire, c'est le trait gris, l'ancien barrage, avec un front de propagation qui est arrivé à 9 km en aval et qui approche en fait d'une ancienne gravière. Sept ans après l'arasement, on a toujours des dépôts au niveau de cette ancienne gravière et un dépôt plus limité en aval, et on se retrouve désormais à 17 km en aval de l'ancien barrage. 11 ans après l'arasement, on a de nouveau une érosion régressive sur l'amont, sur l'ancienne retenue, pardon, un dépôt qui se fait toujours au niveau de l'ancienne gravière, la première qu'on a identifiée, et un nouveau dépôt sur une autre gravière qui était présente un peu plus en aval, et une légère érosion dans le secteur entre ces deux gravières. Le front de propagation est arrivé à 25 km en aval. 15 ans après l'arasement, toujours des dépôts au niveau des anciennes gravières, et un front de propagation qui est désormais à 35 km en aval de l'ancien barrage. Donc, pour ceux qui connaissent la Vienne, on atteint la commune de Chinon. Pour résumer cette synthèse de l'évolution morphologique, donc une érosion régressive très très importante sur l'amont, malgré le fait qu'un seuil avait quand même été reconstitué au niveau de l'ancien barrage, un dépôt progressif des sédiments et un secteur où on a peu de changements morphologiques, avec pourtant une grande partie des sédiments libérés en charge de fond qui sont en fait stockés dans les anciennes gravières. Et on a donc une vitesse moyenne de progression des sédiments qui est de l'ordre de 2,5 km par an. Bien évidemment, cette évolution et cette nouvelle dynamique sédimentaire a eu des impacts et des effets sur les habitats dans l'ancienne retenue, enfin en aval et dans l'ancienne retenue. En aval du barrage, on a une forte perturbation des habitats du lit mineur de la Vienne lors du passage des sédiments, puis lors de leur érosion. On a de nombreux radiers qui présentaient une granulométrie grossière, donc qui était très intéressant pour la faune, qui ont été colmatés lorsque les sédiments sont passés. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une diapo où en fait on a une barre sédimentaire 1,20 m de haut qui est arrivé et qui a colmaté quasiment les deux tiers de la largeur de la rivière. Donc vous avez effectivement ici l'exemple d'un des radiers qui est situé à 2 km en aval de l'ancien barrage, donc où on avait une granulométrie vraiment très importante. On voit là sur la photo aérienne et on voit ici le banc de sable qui est venu colmater l'ensemble du radier. Nous nous sommes donc intéressés aux communautés de macro-invertébrés, donc où on a eu une perturbation très importante au sein de cette communauté lors du passage des sédiments. Donc vous avez ici en rouge la période de passage des sédiments sur une des stations que nous avons étudiées. Vous l'avez ici aussi en noir sur les différents graphiques. Donc il s'agissait du radier que je vous ai montré précédemment. Donc les sédiments sont passés en 2000 sur le radier. Lors du passage des sédiments, on a vu une chute de la variété taxonomique et de l'indice de diversité des peuplements et une augmentation de la densité. Donc, des peuplements qui sont donc moins riches, moins bien structurés et moins équilibrés, et qui ensuite, avec le déstockage des sédiments qui avaient été déposés, reprennent un petit peu de richesse. On voit que la courbe de la variété taxonomique réaugmente. Donc un retour des habitats favorables et donc des taxons qui étaient présents avant le passage des sédiments. Lors du passage des sédiments, on se retrouve à avoir une densité d'individus, pour ceux qui connaissent les invertébrés, de diptères, principalement des chironomes et à côté des oligoquettes, donc, qui constituent la plus grosse partie du peuplement, donc qui sont des taxons qui sont caractéristiques des zones sableuses en mouvement. Dans l'ancienne retenue, donc, on a aussi une très forte modification des habitats du lit mineur, donc sur l'axe Vienne et l'axe Creuse. On a eu l'apparition de 10 radiers avec une granulométrie beaucoup plus grossière que les sables qui étaient accumulés auparavant. Sur certains secteurs, avec l'érosion régressive, on a l'apparition de la roche mère, sur beaucoup de secteurs même, et l'apparition de bancs alluviaux graveleux. Lors de l'abaissement du niveau d'eau, vous avez ici l'exemple sur la Creuse, sur la commune de Port-de-Pile. Toute cette nouvelle dynamique a engendré une diversification des écoulements avec une hétérogénéité des caractéristiques substrat-vitesse qu'il n'y avait pas avant puisqu'on avait un plan d'eau quasiment stagnant. Et depuis 2005, un très fort développement des macrophytes aquatiques sur le site. Donc globalement, de nombreux supports biogènes qui sont offerts aux macro-invertébrés et aux poissons. Pour vous donner un exemple de stations invertébrées qui ont été suivies, vous avez ici l'évolution au fil des années. Donc, on n'a pas commencé le suivi dès le départ sur l'amont pour des questions de budget. Mais on voit bien que globalement, depuis 2005, on a une diversification des peuplements avec, vous avez ici en vert, des taxons qui sont relativement intéressants, qui sont des trichoptères, avec donc globalement une augmentation de la richesse taxonomique et de la diversité de Shannon. Concernant la ripisylve, lors de l'abaissement du niveau d'eau, donc comme je vous l'ai dit, le barrage faisait 4 mètres de haut, donc à certains niveaux, à certains endroits de la retenue, le niveau d'eau est descendu de 4 mètres. Donc on a toute la ripisylve qui est morte, qui était avec assez souvent des chutes d'arbres qui ont été constatées, donc il y a eu des travaux qui ont été faits pour enlever ces arbres. Mais très rapidement, en fait, une nouvelle ripisylve s'est mise en place, donc constituée d'espèces caractéristiques de la Vienne et de la Creuse, donc des saules, des peupliers, des frênes, mais aussi beaucoup d'érables Negundo qui se sont installés. Si on regarde maintenant plus précisément la végétalisation des berges et des îlots qui ont été mis à nu, donc on a eu une très rapide colonisation végétale par les strates herbacées dans un premier temps, donc avec les espèces pionnières caractéristiques des cours d'eau, et ensuite les strates arbustives et arborescentes qui se sont mises en place donc sur les berges qui ont été mises à nu. Vous avez ici un exemple d'une berge qui a été mise à nu, donc on voit ici l'ancien niveau d'eau, donc 98, donc juste après l'abaissement du plan d'eau. En 99, donc un an après, une très rapide colonisation par les espèces pionnières. En 2000, on a quelques espèces arbustives qui se sont installées. Et vous voyez la photo ici en 2013 où on a une ripisylve qui s'est réinstallée ainsi que les espèces herbacées. Le suivi qu'on a mené sur différents transectes comme ça de végétation montre qu'en fait, on a donc depuis 98 jusqu'en 2000, une augmentation de la richesse spécifique, toutes strates confondues, donc herbacées, arbustives et arborescentes, mais qui a plutôt tendance depuis 2000 à rechuter, ce qui peut être lié en fait à la prédominance de certaines espèces, donc et surtout à l'érosion latérale des berges, qui fait qu'on a un certain nombre d'espèces, de petites espèces herbacées pionnières qu'on ne retrouve plus, et on a une dominance de certaines espèces comme les orties, qui est assez caractéristique des bords de Vienne. Rapidement, pour vous montrer aussi le suivi qu'on a fait donc, sur les bancs alluviaux qui ont été exondés, donc, vous avez ici les différentes campagnes. Donc, en 98, tout de suite après l'abaissement du niveau d'eau, donc, on voit ce banc vierge, sans aucune végétation. En 99, on commence à avoir quelques taches de végétation. Vous voyez qu'en 2000, ça commence à bien se propager. En 2002, donc là, on a les arbustes qui s'installent. 2005, les arbustes qui grandissent. 2009, on est quasiment au stade arbre. Et en 2013, ici, vous voyez qu'on a désormais une île qui s'est constituée sur ce site. Donc une très rapide colonisation végétale. Concernant les poissons, donc comme je vous l'ai dit, ce barrage constituait un obstacle majeur. Dès le moment où il a été construit, plus aucun saumon ne remontait. Concernant les lamproies et les anguilles, donc il y avait des passes à poissons qui avaient été mises en place, mais elles n'étaient pas totalement fonctionnelles. Donc ça remontait un petit peu, mais pas suffisamment. Et donc le problème d'hybridation des aloses, de l'alose feinte et la grande alose. Donc dès l'arasement du barrage, on a eu une très rapide recolonisation des frayères à alose en amont de l'ancien barrage. Donc 35 km de cours d'eau qui ont été rendus accessibles à l'espèce, 11 km sur la Creuse jusqu'au barrage de Descartes et 24 km sur la Vienne jusqu'au barrage de Châtellerault. On a aussi eu un très rapide retour des lamproies marines, sachant que le bassin de la Vienne apporte 80% des lamproies du bassin de la Loire, et des saumons qui, dès 1999, ont été comptabilisés sur une station de la Gartempe, donc qui est un affluent de la Creuse. Donc 9 adultes qui ont été comptés. Donc une très rapide colonisation, donc un résultat positif pour les poissons. Donc l'effacement du barrage de Maison Rouge constitue actuellement un des premiers arasements de grande dimension en France, avec, comme l'a dit Roberto, avec celui de Saint-Étienne-du-Vigan et de Carnant-Skylec. Donc de nombreuses modifications du fonctionnement de la Vienne et de la Creuse qui sont directement liées aux nouvelles conditions hydrosédimentaires, avec donc un très rapide déstockage dans l'ancienne retenue et une propagation des sédiments sur l'aval. Et on observe maintenant une certaine stabilisation du système. Globalement, des résultats très positifs de l'arasement pour l'ensemble des compartiments que nous avons étudiés, donc que ce soit pour la faune ou la flore. Et donc, c'est un travail qu'on a mené depuis 15 ans, enfin 20 ans maintenant, mais la dernière campagne, on l'a faite en 2013. Pour l'instant, c'était un cas unique de suivi à long terme. Donc, on attend maintenant celui de la cellule. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.